Ce qui est important, à vos yeux, c'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est important ? Ce qu'on fait dans le monde, est-ce que c'est important d'après vous ? Parce que Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi ? C'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est ce qu'on est. On arrive à la fin des temps. Enfin, il y a des gens, beaucoup de gens qui disent ça. J'en sais rien. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Alors, c'est le message de la fin de l'année, vous savez, qui va vous mettre un petit coup derrière les oreilles, mais peut-être qu'il va vous obliger à vous poser des questions. Est-ce que je suis en Christ ? Ou est-ce que je suis un bon pharisien ? La prière est souvent une expression de confiance en Dieu, c'est-à-dire on lui parle, parce qu'on a conscience qu'il est notre Père. Mais on lui parle d'une certaine façon, parce qu'on sait qu'il est Dieu, qu'il est saint, trois fois saint. Mais il y a beaucoup de personnes, comme les pharisiens, qui prient le Seigneur et, en fin de compte, ils se confient en elles-mêmes. Ces personnes se confient en elles-mêmes. Plutôt qu'en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et Jésus, en fin de compte, qui aime les paraboles, a donné une parabole dans ce sens. Mais c'est surtout que cette parabole montre les conséquences d'une telle attitude. On va aller en Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Je vais peut-être être cru, mais je crois qu'à un moment donné, on avance dans le temps, on sait que les temps raccourcissent, ne serait-ce que pour notre vie physique, mais également, on voit que le monde commence à bouger. J'ai écouté d'ailleurs une prédication de Sourdril qui nous a imagé la fin des temps. Et quand il explique, c'est surprenant parce qu'on est en plein dedans. Mais en plein dedans. Tout ce qui se passe actuellement avec l'Europe, c'est exactement le début de la fin des temps. Et l'Antéchrist va être la personne qui va nourrir nous et tous les autres. Voilà. Enfin, écoutez-la si vous arrivez à la trouver. Donc, Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Donc Jésus, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Ça veut tout dire. Et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ses chevilles, elles vont exploser. « Qui sont ravisseurs ?» injuste, adultère, ou même comme ce publicain, c'est-à-dire la personne qui était à côté. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » La conclusion de Jésus. « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc deux hommes montent au temple pour prier. Un pharisien, un publicain, le pharisien superbement bien habillé. On le verra dans un texte plus loin. Vous savez, il y a un gars riche, comme moi. Vous voyez, bien habillé, je l'ai fait exprès. Et un publicain, on imagine pauvre, mal habillé, peut-être pas bien lavé. Et deux attitudes complètement différentes. Et en fin de compte, ils s'en vont au temple, qui est une maison de prière. en lisant en Ésaïe 56, verset 7, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Quand on regardait ces hommes extérieurement, l'attitude de ces deux hommes était bonne. Ils allaient à l'église. Incroyable, hein, comme nous ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu à l'église. On est saint, on est superment bien. Mais en fait, compte, qu'est-ce que nous montre la parabole? Et Jésus appuie là-dessus. Elle montre la réalité de ce qui en est dans le cœur de ces deux hommes. Une réalité totalement différente. Quand vous allez voir un marionnettiste, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand c'est bien fait, que ce soit le marionnettiste à fil ou celui avec qui fait aller, un ventriloque si vous préférez, quand on regarde la marionnette, à un moment donné, on ne voit plus la peluche. On s'imagine que c'est une personne réelle. Ça ne vous fait pas ça, vous, des moments? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand c'est bien fait, ben, y a des chrétiens, c'est exactement la même chose. Quand vous les regardez, vous avez l'impression que c'est des super chrétiens. Et les pharisiens faisaient partie de ces gens-là. Et je vais vous lire un texte tout à l'heure. Vous allez être très surpris parce qu'ils sont, mais alors, décrits d'une façon. Et ils étaient assis dans la chair de Moïse. Incroyable, vous lirez. On va lire ça, vous avez ça. Donc le pharisien, l'élite de la nation aux yeux des hommes. Ils étaient remplis d'orgueil, remplis de leur propre justice. Et ils se présentent devant Dieu. Inconscients, mais totalement inconscients de leur état réel. Des vulgaires marionnettes. Parce que la marionnette, quand le gars il enlève la marionnette, il la pose par terre, elle est morte. Est-ce qu'on est mort ce matin? Dieu ne s'attache jamais aux apparences. Il s'attache au cœur. Vous avez des gens qui vont vous condamner. Vous avez des gens qui vont vous juger sans vous connaître. Et alors que peut-être ils n'ont pas vu qu'en vous, il y a un réel amour. En vous, il y a ce Jésus-Christ qui vit par son Saint-Esprit. Et ils vont vous juger. Ils vont vous mettre au banc des accusés. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais même dans les églises, c'est la même chose. Vous avez des frères et des sœurs qui accusent des frères, des sœurs qui accusent des sœurs. Et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre les dominations, tout ce qui nous environne et qu'on ne voit pas. Et ces pharisiens font partie de ces gens-là, remplis de la loi, sans connaître Dieu. Ils étaient remplis d'eux-mêmes, incapables de voir que devant eux, il y avait le Messie. Parce qu'ils étaient aveuglés par ce qu'ils étaient et ce qu'ils représentaient aux yeux des hommes. On ne pouvait pas les toucher. Moi, je connais la loi. Moi, je connais ma Bible. Mieux que vous. Je suis capable de vous parler. Je suis plus grand que vous. Commence à vous parler comme ça, vous allez vous dire. C'est bizarre, dans la parole de Dieu, on ne dit pas ça. D'ailleurs, vous avez entendu, la parabole nous dit « Celui qui s'élève sera abaissé ». En fait, quand le pharisien se réclame de cinq choses. Cinq, dans la parole de Dieu, c'est la capacité humaine. Vous savez, si vous étudiez tout, c'est la numérologie dans la Bible, vous allez voir que 5, c'est la capacité humaine. Il n'est pas ravisseur, c'est-à-dire que je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur, voilà. Il profitait de la dîme des gens, mais ce n'était pas un voleur. Il n'était pas injuste, parce qu'il avait la loi pour justifier ce qu'il faisait. Il n'était pas adultère. Il jeûnait. Il jeûnait. C'est incroyable, hein ? Il jeûnait. Il donnait la dîme de tous ses biens. Enfin, quoi, si on regarde, ça, c'était sa propre justice. Il le faisait parce qu'il fallait le faire. Il l'avait vu dans la loi. Il ne le faisait pas pour l'amour de Dieu. Il le faisait pour satisfaire son moi. Voilà, je m'élève, je suis un bon chrétien. Et ce qui est malheureux, c'est que vous avez des chrétiens qui font ces choses. Et ils ont bonne conscience. Voilà, je vais tous les jours, tous les mardis, je suis aux études bibliques. Tous les vendredis, je suis aux réunions de prière. Tous les dimanches, je suis à l'église. Je suis un bon chrétien. Je suis un bon chrétien. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce qu'il ne s'attache pas à ça. Il s'attache à qui nous sommes. La première chose qu'il regarde en nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Vous savez, nous, entre anciens, on a banni un terme. Il faut. À partir du moment où vous dites « il faut », il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais non, Dieu ne s'attache pas à ce qu'on fait. Il s'attache à qui nous sommes devant lui. Et ça, c'est important. Et en fin de compte, les gens qui font ces choses, en fait, ça leur donne bonne conscience. Mais le problème, c'est qu'un linge souillé, qu'ils vont poser sur ce qu'il y a de plus abject en eux, l'orgueil. Et cet esprit de supériorité, je vous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ça veut tout dire. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés malheureusement à la religiosité. Beaucoup. Et ils oublient l'élément principal, la vraie repentance. La vraie repentance, celle qui vient du cœur. Et si vous n'en êtes pas convaincu, vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On a beau prier, on a beau chanter, on a beau louer, on n'est pas forcément prêt à entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que Dieu regarde notre cœur. Et ce qu'il doit voir au travers de notre cœur, c'est Jésus-Christ. On est allé chez des amis hier. Et on a eu une très très bonne conversation. C'est des gens qui ne sont pas chrétiens, ils vivent une certaine foi, entre guillemets. Et la dame me dit, j'ai pardonné, je sais que mon mari a du mal de pardonner. Elle dit, mais moi j'ai pardonné, on m'a fait mal, j'ai pardonné. Mais j'ai dit, t'as vraiment pardonné ? Elle me dit, oui, oui, j'ai pardonné. Et heureusement, je suis tombé sur quelqu'un d'honnête. J'ai dit, ok, t'as pardonné. J'ai dit, la personne, elle vient maintenant, dit, je viens boire un café chez toi, est-ce que tu le laisses rentrer ? Ah non. T'es sûr que t'as pardonné ? Quand on est parti, la première chose qu'elle a dit, on va beaucoup réfléchir sur cette conversation. Mais est-ce qu'on n'est pas dans ce cas-là ? Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas-là ? Et on va prendre sa Bible, on va lire la prière sacerdotale. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Moi, je préfère pas la dire si je suis dans ce cas-là. Et cette dame, elle a compris qu'en fin de compte, elle n'avait pas pardonné. Mais j'ai dit, tu sais, j'ai dit la même chose à son mari. Tu sais, ce n'est pas la personne à qui tu n'as pas pardonné qui est embêtée. c'est toi. C'est toi. Parce que tu as toujours ça dans ta tête. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal. J'ai dit, et c'est là où, avec Arlette, on lui a parlé du livre Le pardon, une puissance qui libère, qu'on va lui donner. Mais c'est pour vous dire que même nous, on peut en parler. On peut parler du pardon alors que nous-mêmes, on n'a pas pardonné. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, on est des pharisiens. On est des pharisiens sans le savoir. Et ce pharisien, il croyait être bon, il croyait, oui, c'est sûr, il s'est levé. Par rapport aux publicains. Parce que, je ne vous ai pas dit, c'est que si on porte ses regards sur Matthieu 6, versets 1 et 18, on ne va pas le lire. Hein. Vous le lirez chez vous. On peut remarquer que le Seigneur a dit une chose dans ces versets-là, l'inverse de ce que faisait le pharisien. C'est-à-dire que le Seigneur dit que la prière, le jeûne et les aumônes devraient être accomplis dans le secret. On ne devrait pas le voir. Vous savez, quand vous faites quelque chose de bien, vous appelez la fanfare de votre village, et puis avec un grand micro, vous dites « j'ai fait ceci, j'ai fait cela », puis la fanfare, boum, boum. C'est ce que faisait le pharisien. Il déclarait à Dieu « je suis très bien parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela ». En fin de compte, il était lui-même son propre centre d'intérêt, complètement étranger à Dieu et à ses bénédictions. Il faut faire attention parce qu'on peut être dans ce cas-là, complètement étranger à Dieu, tout en étant assis dans une église. On est étranger à Dieu et à ses bénédictions. Et encore bien plus, nous, les anciens ou les pasteurs qui sommes responsables d'une église. C'est bien plus grave, bien, bien plus grave. Et j'aime bien parce que Paul nous dit souvent, en tant qu'ancien, on doit être une serpillière. C'est-à-dire que les gens doivent s'essuyer les pieds sur nous. Ce n'est pas eux qui sont à notre service, c'est nous qui sommes à leur service. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'élève. Alors que j'aime bien dire que nous sommes que des hommes. Je répète ça à un frère qui m'appelle toutes les semaines. Et je lui dis, mais attends, je ne suis qu'un homme. J'ai dit, je passerai devant toi, comme toi devant Jésus-Christ. J'ai dit, ce qui va retenir, c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Mais par rapport à lui, par rapport au jugement des hommes, il ne va pas dire, bah, c'est très bien, tu t'es assis tous les dimanches dans l'église. Non, non. Est-ce que tu as pardonné? Oui, mais tu comprends, Jésus, c'était trop difficile. Oui. J'étais sur la croix. Tu te rappelles ce que j'ai dit? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'avais les clous dans les mains. J'avais les clous dans les pieds, le clou dans les pieds. Et toi, tu me dis que c'est pas possible, c'est difficile, c'est... Qu'est-ce qu'il faut que je te dise d'autre? Et ensuite, maintenant, on en vient au publicain. L'homme de la rue, sale, mal habillé. Lui, il a une conduite remarquable. Remarquable. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se tient loin. Sa position est la plus éloignée. Vous avez déjà lu la parabole de la personne qui se met au premier plan dans un repas, et le gars lui dit, mais attends, c'est pas ta place, il faut que tu es derrière. Et Jésus dit, vaut mieux te mettre derrière, qu'on vienne te chercher pour que dise, non, ta place, elle est là devant. Le publicain, lui, il était derrière. À la limite, faites comme si je n'étais pas là. Il n'ose pas regarder le ciel, son attitude, parce qu'il se savait sale devant l'Éternel. parce qu'il se savait indigne de lever les yeux vers le ciel. Troisièmement, il se frappe la poitrine en marque de repentance. Il se savait pécheur. Est-ce qu'on connaît nos péchés? Est-ce qu'on se sait pécheur? Vous savez que le premier épître de Jean dit que celui qui dit qu'il ne pèche pas est un menteur. Pourquoi? Parce que Christ aujourd'hui est l'avocat auprès du Père. Il plaide pour nous. Ça peut arriver de chuter. Ça peut arriver d'avoir un moment de colère. Mais c'est s'en apercevoir et se mettre aux pieds de Jésus, dire « Père, pardonne-moi, pardonne-moi. » Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a agi en disant « Mais je suis pécheur. » Et quatrièmement, c'est ses paroles. Il implore la grâce de Dieu. Parce qu'il a une confiance en Dieu, il sait qu'il est le seul à pouvoir lui faire grâce. Il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur, que je ne subisse pas ta colère. » C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Il a un cœur, en fin de compte, sans fraude. Il est brut de pomme devant Dieu. Il est brisé par la conscience de son état. Est-ce que ça nous arrive d'être brisé par la conscience de notre état? Ou alors, je vais aller à l'église dimanche et ça passera. En fin de compte, il place sa confiance en Dieu. Bien que, en fin de compte, il ne connaisse pas pleinement Jésus-Christ et la grâce qui va avec. Et en fin de compte, Jésus était en train de monter à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la justification du publicain. Il justifie le publicain. Vous imaginez la tronche du pharisien? Un grand connaisseur de la loi. Mais c'est une belle leçon que nous donne Jésus, parce qu'avec Jésus, en fin de compte, la loi morale existe toujours. Jésus ne regarde pas ce qu'on fait, le « il faut », il regarde ce qu'on est. Vous savez, je le dis souvent et je l'ai partagé avec nos amis hier, vous avez beau dire à quelqu'un, parler de Christ, vous avez beau, ce que vous voulez, un jour, Jésus-Christ va vous mettre dans une situation sans le savoir devant cette personne. Cette personne va vous voir, elle va dire « Ben mince alors, je ne savais pas qu'un chrétien pouvait réagir comme ça. » Un moment de colère, un moment de « je ne sais pas ce que vous voulez ». C'est pour ça que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. Si vous avez l'amour de Christ en vous, si Christ a fait son œuvre en vous, ce qui va sortir de vous, c'est que du Jésus-Christ. Le Pascal, le Alain, le Jacques, le Dorothée, c'est fini. Vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Alors la conclusion. Vous voyez que je n'ai pas été trop long. La conclusion, en fin de compte, vous l'avez entendu, elle est tirée par Jésus-Christ lui-même. En Luc 18, 14, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. C'est pas celui qui faisait les grands talala, qui était très bien habillé, qui savait vous raconter les 10 commandements, qui était justifié. C'était le pauvre petit pouilleux, on va l'appeler comme ça, mal habillé, qui était recroquevillé par terre parce qu'il ne voulait pas regarder le ciel. Lui, il a été justifié parce que Dieu a regardé son cœur. Celui qui s'élève, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Il y a eu en premier Satan. L'ange déchu, à cause de quoi ? Son orgueil. Toujours le même problème. Abdias, versets 3 et 4. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, « Qui me précipitera jusqu'à terre ?» Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si vous vous élevez trop, Dieu va s'occuper de vous, ou de nous, c'est pareil pour nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Tous les pharisiens qui se sont assis dans la chair de Moïse. Alors écoutez bien, en Matthieu chapitre 23, là on va les lire parce que vous avez une description parfaite du parfait religieux. Mais du religieux, hein, c'est tout. C'est Jésus qui parle à la foule et à ses disciples et qu'il dit « Les scribes et les pharisiens sont aussi dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Deuxième fois. Voyez que pour Jésus-Christ, ce verset 12 est très important. On parlait justement hier avec ces gens, l'humilité, être humble. C'est ce qui est apparemment très difficile pour certaines personnes. Il y a eu la bête romaine et le faux prophète. Il y a tous les êtres célestes, terrestres et infernaux qui seront abaissés lorsque Christ reviendra. Ils plieront le genou à terre. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Celui qui s'abaisse sera élevé. L'abaissement. L'humilité, si vous préférez, va devant la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Christ s'est anéanti, c'est-à-dire qu'il était Dieu, il s'est fait homme. Il s'est abaissé lui-même, c'était un esclave volontaire. On ne lui a pas dit, ben tiens, toi, tu vas te servir de... Tu vas servir de j'ai plus de mots en tête. Enfin bref, c'est un esclave volontaire jusqu'à la mort sur la croix. Ensuite, il a été élevé par Dieu lui-même. Et il porte un nom au-dessus de tout nom. Alors pour nous qui sommes prompts, et chacun en est prompt, à nous élever dans nos pensées, le Seigneur a déjà montré comment il fallait s'abaisser devant le monde, devant les frères et devant Dieu. On va aller prendre Luc, chapitre 14, versets 7 à 11. C'est la parabole que je vous disais tout à l'heure. Il adressa ensuite une parabole aux conviés. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. La fin, vous la connaissez. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Encore une fois. Le chemin de la gloire est toujours celui de s'humilier. Et en faisant ça, on goûte aux consolations et aux bénédictions de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 7, verset 6, il est dit « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Et également, on goûte à la grâce de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 7, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et en Jacques, chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Alors ma question, qui j'espère vous trottera jusqu'à la fin de l'année pour démarrer une année nouvelle, alors pharisien ou publicain ? Amen. On va prier. C'est vrai, Seigneur, qu'il est facile de s'élever avec une certaine connaissance de ta parole. On peut endormir nos frères et sœurs. Avec de belles prières, on peut également subjuguer les personnes. Mais je te loue, Père, que toi, tu ne regardes qu'au cœur. Pour toi, c'est ce qui est important. Les blablas, les gesticulations, tu ne regardes pas à ça. Seigneur, quand on regarde ton fils qui est allé jusqu'au bout, il s'est laissé crucifier. Et Seigneur, il a eu confiance en toi. Il a fait ta volonté. Et ce matin, tu nous appelles chacun à faire ta volonté, en étant humble, en sachant que si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes dans cet état aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est ta présence en nous qui nous élève. Et rien d'autre. Ce n'est pas ce que nous disons, ce que nous faisons. C'est cet esprit en nous qui nous élève. Qui nous élève pour goûter à la gloire. Qui nous élève pour goûter le ciel sur cette terre. Seigneur, que ton esprit parle dans les profondeurs de chacun. Et Seigneur, que nous puissions chacun atteindre ce niveau d'humilité que toi tu as eu. Merci Jésus-Christ. Amen.